E-Radio, aujourd'hui en Europe.
Bonjour à toutes et tous, bonjour Romain. Le Parlement européen a adopté jeudi 4 mars une feuille de route pour la conférence sur l'avenir de l'Europe. Ce grand forum de discussion doit permettre à la société civile de s'exprimer et d'imaginer le futur de l'Union européenne et donc de rapprocher l'UE et ses citoyens.
Bonjour Thomas, bonjour à tous. Oui, dans un communiqué, le Parlement européen a déclaré que la conférence devrait débuter le jour de l'Europe, c'est-à-dire le 9 mai. Elle devrait durer un an. Le projet avait été annoncé en 2019 par la Commission européenne pour un début prévu en 2020, mais il a été repoussé plusieurs fois en raison de l'épidémie de Covid-19.
Alors les États se sont ralliés un début février à cette feuille de route, mais leur soutien à la conférence est aujourd'hui mis en doute.
Tout à fait. En 2019, le gouvernement français affirmait par exemple vouloir obtenir une déclaration des 27 sur l'avenir de l'Europe d'ici 2022, ce qui coïncide avec la présidence française de l'UE et les élections présidentielles en France. Mais les retards accumulés pour l'ouverture de cette conférence, mais aussi la lutte contre la crise sanitaire, semblent aujourd'hui détourner à l'intérêt des États pour cette consultation. Les gouvernements ne semblent pas non plus intéressés par une révision des traités de l'UE que pourrait promouvoir une telle consultation, dont les objectifs demeurent donc assez flous.
Mais la crise sanitaire n'est pas la seule raison de la lenteur du projet à se mettre en place.
En effet, les institutions européennes ont perdu un temps précieux pour s'accorder sur la personne à désigner pour présider la conférence. Contrairement à la proposition initiale, elle sera finalement présidée non pas par une seule personne, mais par les leaders des trois institutions principales de l'UE, à savoir le portugais António Costa, président du Conseil de l'UE, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, et David Sassoli, président du Parlement européen. Même si l'UE a présenté ce mode opératoire comme le plus simple, cela reste encore à vérifier.
Et d'ailleurs, ce choix d'une triple présidence suscite des critiques.
Oui Thomas, plusieurs critiques ont émergé, notamment contre le fait que la conférence soit gérée par des grands technocrates européens et non pas par des groupes de la société civile, comme elle le voudrait, ce qui risque d'affaiblir son objectif démocratique.
Évoquons maintenant une actualité concernant la Commission européenne. L'exécutif européen a lancé jeudi 4 mars une proposition législative afin d'améliorer la transparence salariale au sein des entreprises en Europe. Romain.
Oui Thomas, selon cette proposition, tous les travailleurs évoluant dans des entreprises de plus de 250 salariés seraient en droit de demander des informations sur les salaires dans l'entreprise en fonction du genre ou encore de la position dans la société. En cas de discrimination avérée ou bien de difficulté à disposer de ces informations, les entreprises pourraient être obligées de verser des compensations ou encore de payer une amende.
Cette proposition a pour objectif de réduire la différence de revenus, notamment entre les hommes et les femmes, mais elle n'a rencontré qu'un soutien limité.
Oui, selon la secrétaire générale adjointe de la Confédération européenne des syndicats, Esther Lynch, je cite, il est un peu naïf de croire que les employeurs vont résoudre cela par eux-mêmes. Et justement, le patronat européen n'a pas caché sa méfiance envers cette proposition. Rebecca Smith, directrice adjointe des affaires sociales de Business Europe, a notamment déclaré s'inquiéter d'une charge supplémentaire pour les entreprises. La proposition doit maintenant être approuvée par le Parlement européen et le Conseil de l'UE avant d'être finalement effective.
Dirigeons-nous maintenant vers le Royaume-Uni où de nouvelles tensions ont eu lieu avec l'UE sur les contrôles devant s'établir entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, conformément à l'accord post-Brexit passé avec l'UE en décembre dernier, Romain.
Tout à fait, le Royaume-Uni a quitté l'union douanière et le marché unique en janvier 2021. Cependant, l'accord passé entre l'UE et le Royaume-Uni stipule que l'Irlande du Nord reste dans l'union douanière pour les marchandises afin d'éviter le retour d'une frontière physique et le retour des tensions entre la province britannique et la République d'Irlande. Cette solution a donc établi de fait une frontière commerciale entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne, qui appartiennent pourtant toutes les deux au Royaume-Uni. Une solution très critiquée donc par les conservateurs britanniques et les unionistes d'Irlande du Nord.
Alors que les contrôles devaient être mis en place ce mois-ci, le gouvernement britannique a décidé mercredi 3 mars qu'il attendrait jusqu'au 1er octobre avant de le faire. Une décision saluée favorablement par le parti unioniste nord-irlandais, le DUP, qui avait même annoncé fin février lancer une action en justice contre ce protocole qui menacerait l'unité du Royaume-Uni.
Oui, en revanche, le vice-président de la Commission européenne chargé notamment des relations avec le Royaume-Uni, Maroš Šefčovič, a déclaré que cette décision constituait une violation de l'accord du Brexit et donc une violation du droit international. Ce comportement n'a effectivement rien d'anodin. Pourtant, le ministre britannique des Relations UE-Royaume-Uni, David Frost, a déclaré que cette décision serait tout à fait compatible avec le protocole.
Terminons ce journal en revenant sur un accord passé vendredi 5 mars entre les États-Unis et l'Union européenne pour suspendre temporairement les taxes douanières imposées de part et d'autre dans le contexte du conflit entre les constructeurs aériens Boeing et Airbus.
Oui, en 2019, pour sanctionner les subventions versées à Airbus par l'UE, l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, avait reconnu aux États-Unis le droit d'imposer des taxes douanières sur les produits européens totalisant 7,5 milliards de dollars. Puis en 2020, l'OMC avait également autorisé l'UE à introduire des taxes sur près de 4 milliards de dollars de biens, cette fois américains, importés, et ce, pour contrebalancer les aides versées à Boeing par l'État américain. Ces taxes concernaient les avions, mais s'appliquaient aussi sur le tabac ou les tracteurs américains, ainsi que sur le vin, le fromage ou encore l'huile d'olive provenant d'Europe.
L'annonce fait suite à un entretien téléphonique qui a eu lieu vendredi entre la présidente de l'exécutif européen Ursula von der Leyen et le nouveau président américain Joe Biden.
Oui, la présidente de la Commission a évoqué un nouveau départ pour la coopération économique avec les États-Unis et elle a confirmé la suspension mutuelle de ces taxes punitives, et ce pour une période de 4 mois.
Merci beaucoup Romain, merci pour votre attention.
C'était Aujourd'hui en Europe, à retrouver sur euradio.fr.